Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode en mode vidéoclub de retour à l'écran. On se retrouve presque un an après une première session qui a connu un certain succès grâce à vous chers auditeurs. Et c'est pour ça qu'on a décidé de poursuivre notre retour sur nos années VHS au travers de quelques autres films marquants de cette époque. L'époque bénie des bandes magnétiques qui fleurissaient dans les nombreux vidéoclubs de France qui ont malheureusement peu à peu disparu depuis le début du 21e siècle. Heureusement, il reste encore aujourd'hui quelques passionnés pour faire vivre les derniers temples de la location de films sur support physique.
On est un petit peu le dernier des Mohicans, ça nous donne encore la force de se battre encore plus, quoi. Le téléchargement a vraiment fait du mal, les plateformes aussi, mais maintenant ça s'est vraiment calmé parce qu'il y en a énormément. Donc les gens maintenant ne savent plus où donner de la tête.
Ici, il y a quand même des Blu-ray, il y a du 4K, ça en streaming vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas cette qualité-là.
Je pense que c'est générationnel. Moi, je n'ai pas d'Internet. Si on se met à regarder des films sur Internet, on ne va plus sortir de chez soi.
Au lieu de regarder sur Internet, de taper à un ordinateur, on parle avec quelqu'un. C'est un peu plus humain, quoi.
Des vidéoclubs comme celui-ci, la France en comptait 5000 au début des années 2000. 20 ans plus tard, ils sont moins de 10.
Pour cette nouvelle session, moi Max, je retrouve mes habituels compères de retour à l'écran. Salut Mick.
Salut, salut.
Et salut Tib.
Salut tout le monde, salut les gars. Hein, ça faisait un moment qu'on s'était pas fait de petits enregistrements. Donc ça fait plaisir de se retrouver.
Ouais.
Et c'est justement toi Tib qui va rouvrir les portes de notre vidéoclub avec un premier film que l'on peut qualifier de sale.
Bon, on va attaquer par du lourd, alors.
Ouais.
Alors, moi, je vais parler d'une petite découverte en vidéo, parce que quand on allait en louer des films, on en a déjà parlé, mais bon, c'est vrai que les films d'horreur, ça faisait partie des choses, quand même, qui étaient assez... on va dire, pas dominante, mais c'était assez important, en tout cas.
En tout cas, c'était le genre de film, quand on était ado, qu'on aimait louer entre potes, un samedi soir... Pour se faire un peu peur, quoi.
Ah ouais. Et comme on en a déjà parlé aussi, la jaquette était quand même très très importante. Et ouais. Donc je vais parler d'un film que j'ai loué principalement pour la jaquette. C'est Street Trash. Le film de James Michael Muro qui est sorti en 87.
Imaginez qu'un vendeur d'alcool retrouve dans sa cave une vieille caisse de bouteilles et qu'il les met en vente croyant que les années bonifient l'alcool. Imaginez simplement qu'il se trompe.
Aujourd'hui, je te propose 5$.
Eh, tiens, petit.
Street Trash, c'est donc l'histoire d'un vendeur de liqueurs dans un quartier miteux de New York qui va découvrir une caisse de bouteilles d'un alcool appelé Viper dans son arrière-boutique et qui les vend à tous les marginaux du coin.
Et à chaque fois qu'on le boit, ben on fond de manière assez gerbante et aléatoire, on va dire, parce que c'est pas toujours pareil.
Et ouais, c'est le mot est faible.
Voilà. Et donc il y a un scénario qui est à peu près proche du néant, mais voilà, il y avait des scènes bien trash qui m'ont bien marqué. Le film, c'est donc réalisé par James Michael Muro, comme je disais, qui est donc à peu près son seul film.
C'est son seul film.
Par contre, il a une super carrière en tant que steadicammer, hein, parce qu'il va travailler sur Abyss, sur Terminator 2, sur Titanic, sur True Lies, et sur un autre film aussi, dont je voulais, à un moment, je voulais en parler, donc je vais faire une aparté en parlant de ce film-là, parce que d'un autre film qui m'avait bien traumatisé aussi dans le même genre, qui s'appelait Elmer le remue-ménage, et il était steadicammer là-dessus, donc... Voilà, avec une histoire de bête qui vit dans le dos d'un gars, une bestiole un peu dégueu et qui envoie des giclées d'acide dans le cerveau, mais qui a besoin de se nourrir avec des humains, quoi. Enfin bon, c'est bien, bien dégueu aussi, voilà.
Et qui ressemble à un étron, hein, faut le dire.
Voilà, c'est ça, ouais, c'est un étron avec un cerveau.
Oui, parce que cet étron, il parle en plus.
Oh Seigneur, allons-nous-en d'ici.
Attends que je termine au moins.
Je vais vomir, je le sens.
Oh, d'accord, j'ai compris. Mets-moi vite sur ta nuque et hop.
On en reparlera peut-être une prochaine fois de Elmer, mais bon, revenons sur Street Trash.
Bon, le Réa va quand même complètement renier ce film, hein, faut le savoir quand même.
Oui, bah oui, parce que il est devenu hyper catho, ouais. Ou pratiquant ou un truc comme ça.
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, une histoire comme ça, mais bon, bref, voilà. Il y avait une bonne idée, c'est d'avoir, en fait, il avait d'avoir contourné la censure en fait en utilisant des quasiment peu de sang et juste avec des couleurs complètement diverses et variées sur le sang, quoi, en ouais, fait
bleu.
Du bleu, du vert, du ouais. Voilà, donc qui donne un effet assez finalement psyché mais bien trash quand même.
J'ai souvenir d'une séquence, parce que je l'ai pas revu depuis très longtemps, hein. Moi je l'avais vu chez ma grand-mère.
Ah, moi non plus, j'avoue que je l'ai pas revu non plus.
Mais j'ai souvenir d'un SDF qui pisse à travers un trou dans une palissade et qui se fait arracher la bite. Donc faut autant le dire comme ça, hein, parce que c'est vraiment comme ça que ça
en fait
quoi.
Le film il vaut surtout pour ces scènes d'explosion de corps en fait, qui est de manière la plus trash ou la plus fun ou la plus déjantée possible, qui fait tout le sel de ce film, qui est totalement barré, hein, mais qui est sympa en fait, c'est fauché, c'est tout ce que tu veux, mais franchement c'est moi j'ai le ça fait une dizaine d'années que je l'ai pas vu mais j'avais trouvé ça fun en fait.
Ouais,
j'avais vu l'affiche sur un mad qui était sorti au moment de sa sortie en juin 87 et ça m'avait marqué. Pareil, j'avais pas vu le film en salle, je crois que je suis même sûr de l'avoir loué bizarrement, mais je l'avais vu sur Canal la première fois. Tout ça pour dire que le film, ouais, comme je le disais, était plutôt sympa à voir. Bon, c'est un peu cheap, un peu
complet.
C'est de la série B typique de Vidéo Club, mais qui est toujours fun à regarder. Il y a juste un petit truc que je vais ajouter. Il y a un certain Bryan Singer qui était assistant sur ce film.
Exact, c'est vrai, je l'avais lu. Oui, oui.
Et Bryan Singer, en fait, donc c'est le réalisateur de Usual Suspect et des deux premiers X-Men. Et donc, oui, il faisait ses débuts en tant qu'assistant, réalisateur, en tout cas, il était assistant sur ce film à l'époque. Derrière son côté nawak, série B, sans prétention et plutôt fun, c'est une critique, encore une fois, de la société.
Réganisme. Hein.
Et du réganisme aussi, voilà. C'était très à la mode, entre guillemets, à l'époque. Et celui-ci aussi en fait partie.
Et alors, si vous voulez, en DVD, il y a une version ultra short avec juste les passages gore, collés les uns aux autres. Donc, si vous n'avez pas le temps, vous regardez juste ça. Voilà, vous allez passer un bon moment.
Quand on parlait de le voir sur Canal, ça me rappelle vraiment tous les samedis soirs, enfin trois samedis soirs par mois, c'était tout le temps les films d'horreur, les films fantastiques ou les trucs comme ça.
Qu'est-ce que tu vas dire ?
Surtout, qu'est-ce que tu faisais le quatrième samedi ?
Le quatrième, je ne sais pas ce que c'est, mais les trois autres, c'est super. Moi, je me souviens, on recevait le guide Canal quand on était abonné, et mon premier réflexe était de regarder ce qu'il y avait comme film d'horreur qui était diffusé ces trois samedis.
Une dernière chose qu'on n'a pas dite, mais qui est quand même super importante, c'est que Street Trash, à la base, c'est un court-métrage.
Oui.
C'est le court-métrage de fin d'études de Jim Murrow, qu'il a finalement réadapté pour le grand écran. Et d'ailleurs, on peut voir ce court-métrage qui dure à peu près 15 minutes sur le Blu-ray sorti chez ESC Éditions.
Pour continuer, c'est Mike qui va nous parler de un de ses films, de ses petits souvenirs de vidéo. Allez, Mike, je te lance.
je saisis la balle au vol pour vous parler d'un film de science-fiction qui date de 76, réalisé par Richard T. Efron, qui est la suite de Monde Ouest, le film avec Yul Brynner, hein, Westworld, hein, qui a inspiré la série plus récemment, et qui s'appelle Les Rescapés du Futur. En français, en anglais, il s'appelle Future World. Et donc, c'est un film qui est sorti en janvier 1977. Il est sorti vraiment en salle, malgré sa facture un peu téléfilm, je vais y revenir. Alors, Richard T. Efron, c'est plutôt un réal de télévision, mais il a fait des films aussi comme J'aurai ta peau, qui est un film avec Mike Hammer, le fameux détective, etc. Et puis un film plutôt musclé, on va dire.
Très cul.
Je sais pas comment dire.
Sulfureux.
Sulfureux, voilà. On va dire que c'est un film sulfureux dans tous les sens du terme. Et puis, il a fait aussi le deuxième volet du diptyque La Révolution française en 89, là, dont le premier était fait par Robert Enrico. Et puis, donc, Les Rescapés du futur, c'est avec Peter Fonda, hein, ouais, le gars de Easy Rider, et une autre comédienne qui s'appelle Bliss Danner. Et donc... ça se passe encore dans le parc de Delos, hein, qui réouvre après le massacre du premier film, parce que le premier film se termine mal, hein, spoiler. Et tous les robots ont été améliorés, corrigés.
Durant ces deux dernières années, nous avons investi plus $1,500,000 pour reconstruire notre équipement. Nous avons reconstitué chacun de nos circuits, tous nos programmes et tous nos robots. Le nouveau Delos est aujourd'hui le plus fantastique lieu de villégiature de l'histoire, et il est à l'épreuve des défaillances. Il y a un mois, comme vous le savez, nous avons rouvert Delos. Le public s'est montré assez favorable, mais en toute franchise, moins que nous ne l'espérions. Il est probable que c'est dû au mauvais souvenir du désastre de Monde Ouest. C'est pourquoi nous faisons appel à vous.
Donc le patron du parc va faire appel à deux journalistes pour leur faire de la pub, mais une fois sur place, ça va pas se passer comme prévu.
Yeah.
Voilà, et après on va suivre plein d'aventures. Alors moi, ce qui me fait vraiment kiffer dans le film, c'est il y a toujours l'aspect médiéval, western, etc. Mais on va avoir aussi d'autres départements dans le
du
parc.
Ski. Sur Mars.
Le ski sur Mars avec juste des filtres rouges. En fait, c'est du ski mais avec des filtres rouges.
Avec des filtres rouges. La partie d'échecs.
Une partie d'échecs, j'adore ce truc-là. C'est une partie d'échecs avec les jaunes contre les rouges. C'est en 3D, mais en fait, c'est des gens qui jouent sur un énorme studio
d'échecs. Ouais, c'est vrai. Ouais.
C'est trop bien. Parce qu'il n'y avait pas de CGI. Hein. Alors, si, il y avait des CGI, justement, mais je vais y revenir. Il y a aussi un voyage dans l'espace, un peu années 70, quoi. Et il y a aussi des robots qui imitent les personnages principaux. Parce que voilà, il y a un moment, il va y avoir un enjeu. Vont-ils être remplacés par des robots ?
Je me rends très bien compte que vous me cachez l'essentiel.
L'essentiel ?
Par exemple, qu'avez-vous fait à ces hommes ? Ils sont drogués, hypnotisés ou quoi ? Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas normaux.
Ils sont normaux pour des robots.
Oh, c'est pas vrai, ces hommes ne peuvent pas être des machines. C'est pas possible.
C'est exact, j'aurais dû vous expliquer. Nous avons découvert qu'on pouvait en partie imputer la catastrophe de Monde Ouest aux défaillances humaines de nos techniciens. Et nous les avons remplacés par le modèle 700 de la série technicien. Ils n'ont pas d'armes, donc pas de failles. Et ainsi, une importante source d'erreurs a été éliminée.
Ce sont tous des robots ?
Donc voilà, donc le film essaye de pousser un peu plus loin ce qui a été mis en place au départ. Bon, on va pas se mentir, il est moins bien que Monde Ouest, qui lui-même a des petites scories de rythme, etc. Mais moi, je le trouve quand même assez exceptionnel. Un jour, j'en ferai probablement un express. Mais il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes. Il y a une musique de Fred Carlin qui avait déjà fait la musique du premier film, qui est vraiment géniale. Et puis, moi, je l'avais découvert dans l'émission L'Avenir du Futur sur TF1. Où on pouvait voir un film et puis après il y avait un débat. Alors bon, la plupart du temps, comme on était minots, on pouvait regarder le film, et encore parce que le lendemain il y avait l'école, hein, c'était le lundi soir, mais le débat, rarement on le suivait. Puis je pense que même quand on est gamin, on n'était pas à même de suivre les débats un peu poussés, quoi, de ce type là
on a vachement parlé de l'avenir du futur dans l'épisode sur Wolfen, mmh, aussi, parce qu'on est beaucoup à l'avoir découvert, ce film.
C'est vrai.
Dans le cadre de cette émission, en fait, de cette soirée, en fait, du film suivi par un débat, et Wolfen en faisait partie, comme les rescapés du futur.
Tout à fait.
Et moi, il y a des scènes qui me restent en tête de ce film. C'est notamment, il y a une scène où on a un enregistrement des rêves. Il y a l'héroïne, on lui met des électrodes, elle se met à rêver, et elle se met à rêver de Yul Brynner, qui, dans sa seule apparition dans le film, d'ailleurs, ça avait déçu pas mal les fans, parce que le film avait été un peu vendu comme la suite de Monde Ouest avec Yul Brynner, et donc plein de fans étaient allés le voir en salle en pensant le voir sur un plus grand rôle.
Sachant qu'il est sur l'affiche, en gros, sur l'affiche aussi.
Et tout. Mmh. Et ouais. Et là, non, en fait, il apparaît juste dans un rêve légèrement érotique, etc. Mais moi, c'est la dimension enregistrer les rêves qui m'a toujours fasciné. Même encore aujourd'hui, ça m'arrive de rêver qu'on invente cette machine parce que ça me fait vraiment délirer, quoi. Et il y a un faux rythme dans le film. Ça fait un peu téléfilm. Je pense que c'est aussi le passé de Richard T. Efron qui a pas vraiment le rythme cinéma quand même dans la peau, on va dire. Mais je sais pas, la SF des années 70, il y a une patine que j'aime bien, un truc un peu plus réaliste, parfois un peu désuet, mais j'aime bien, moins désuet que les années 50 et 60, mais dans les années 70, il y a un petit truc que j'aime bien comme ça. Et puis, pour terminer, il y a aussi des images de synthèse à l'intérieur, donc des images de synthèse qui ont été issues d'un court-métrage qui s'appelle A Computer End, qui a été fait par Ed Catmull. Et Ed Catmull, vous le connaissez sans le connaître, parce que c'est le cofondateur de Pixar avec Steve Jobs et John Lasseter. Et puis, il a participé au film, et notamment pour faire une digitalisation, enfin une numérisation du visage de Peter Fonda. Et donc, le Peter Fonda, c'est le premier CGI du cinéma créé pour le cinéma. Voilà. Est-ce que vous l'avez vu ? Bah oui, Max, toi, tu l'as vu, puisque tu viens de me dire...
Moi, je l'ai vu, mais je l'ai découvert très tard, en fait. Je ne l'ai pas découvert ni à la télé. Enfin, moi, je ne l'avais pas vu sur l'avenir du futur. Je ne l'ai pas vu en vidéo. Je ne l'avais pas loué en vidéoclub. Je l'ai vu très, très tard. Enfin, il y a une dizaine d'années, je ne sais plus. Parce que j'avais revu, justement, Westworld, enfin, Monde Ouest, Westworld. Et donc, je m'étais dit, bah, il faut que je voie la suite. À l'époque, il n'existait pas encore le Blu-ray qui existe aujourd'hui en France, qui est sorti chez Sidonis. J'avais acheté le DVD Zone 1, et donc j'avais revu le film. Et même impression que toi. Alors, j'avais pas été déçu, parce que je trouvais qu'il y avait un peu de redite par rapport à Monde Ouest.
Ouais.
Que c'était juste une version améliorée, je m'entends, oui, en termes de... Oui. Avec plus de choses, en fait, plus de monde, en fait, justement, mais pas forcément plus d'intérêt. Après, ça se laisse regarder, c'est très sympa. Je te dis, j'avais retenu. Après, c'est un peu cheap, hein, bien sûr. On en parlait tout à l'heure, mais le ski sur Mars avec le filtre rouge, ça m'avait fait rire. Mais voilà, j'avais passé un bon petit moment. Après, c'est pas un film inoubliable. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus par rapport à ce que t'as dit, mais ouais, je suis dans la droite lignée de ce que t'as dit. C'est sympathique, c'est moins intéressant, finalement. Enfin, à mon sens, tout avait été déjà dit dans le premier film, donc là, c'est juste un film un peu opportuniste, pas désagréable à regarder, mais qui n'a pas grand intérêt,
oui,
non plus. Quoi.
C'est pas oublié, mais moi, je sais pas, j'ai une petite marotte avec ce truc-là.
Ouais, oui.
Ça me rappelle la VHS RCV, donc avec un quadrillage gris, là, et tout,
ouais,
ça. Et la photo, c'est la tête d'un des robots à qui il manque le visage. Et je sais pas, il y a un truc qui est saisissant dans cette image. J'adore l'image, quoi. Et toi, Tib ?
Ouais, bah, un peu la même impression. Ça fait partie des petites déceptions, en fait. Moi, j'irai un peu plus loin quand même, parce qu'il y a quand même, comme tu parlais des échecs, il y avait quand même des bonnes idées supplémentaires,
oui,
qui visuelles, qui me sont restées quand même. Donc, non, il y avait quand même des petites choses pas mal. Mais c'est vrai que j'avais été, je pense, un peu... Ouais, un peu j'ai un souvenir d'avoir été un peu déçu, justement, parce que je m'attendais à Yul Brynner, je m'attendais un peu, puis finalement, alors que en fait, voilà, pourtant ils avaient un peu renouvelé quand même. Finalement, ils avaient fait d'autres propositions, mais je sais pas, je l'avais pas très bien reçu, je crois. Petit film sympa encore, ouais, quand même.
Petit film sympa, mais ouais. Et donc, à toi, Max, qu'est-ce que tu nous as concocté ?
Alors, on a parlé d'un film d'horreur des années 80, on a parlé d'un film de science-fiction des années 70. Moi, je vais vous parler d'un polar des années 90.
Sans blague.
Et pas des moindres. Qui dit vidéo club, je ne pouvais pas ne pas citer un film avec Steven Seagal.
Et oui, tu étais obligé, vous étiez obligé d'en faire un.
Ah ben, obligé.
Surtout qu'à l'époque, j'avoue, je kiffais bien les films de Steven Seagal.
Ah, ça je sais, oui.
on en a vu certains en salle. Alors justement, j'aurais pu choisir Nico, j'aurais pu choisir Désigné pour mourir, qui sont assez what the fuck, hein, faut le dire, avec le recul, mais j'ai choisi Justice sauvage. Alors, Pourquoi j'ai choisi Justice Sauvage? Déjà parce que ce film n'est pas sorti en salle, il est sorti en vidéo. Donc
oui, c'est vrai.
Pour ceux qui l'ont découvert comme moi, on ne pouvait le découvrir, ne le voir qu'en vidéo, en le louant. Donc on allait au Vidéoclub pour le louer. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Et je l'ai choisi aussi parce que dans toutes les bouses qu'il a tournées, c'est peut-être l'une des moins pires. Pourquoi l'une des moins pires? Parce que déjà, c'est un film qui a été réalisé par John Flynn. Alors John Flynn, c'est un réalisateur de polar américain qui a fait des films tout à fait corrects, comme Pacte avec un tueur avec James Wood et Brian Dennehy, qui a fait Rolling Thunder, un film vigilante flic qui est très bien, Échec à l'organisation avec Robert Duvall, et Haute Sécurité avec Sylvester Stallone. Donc c'est pas un mauvais le mec, bon, hein. Et le film est pas très très bon, et je vais vous expliquer pourquoi après, mais c'est pas le pire. Alors, ça parle de quoi Justice Sauvage? Justice Sauvage, c'est l'histoire d'un flic de Brooklyn qui est d'origine italienne et qui a son coéquipier aussi qui est un homme d'enfance et qui se fait assassiner par un caïd du quartier qui est un ami d'enfance aussi des deux autres. Bref, très très con.
En fait, la majorité des débuts de scénar de films de polar des années 90.
Ouais, c'est vrai.
Non, je déconne.
Et donc, tout bêtement, Steven Seagal, donc qui joue le flic qui reste vivant, va venger son pote en essayant de buter son ancien pote qui a buté son pote. Vous avez compris ?
Gino, mes sincères condoléances. Du fond du cœur. Gino, ce type est une honte pour moi. Et pour toi. Il a tué un innocent. Devant sa famille et sur mon trottoir. Tu connais nos lois.
Ça n'empêchera pas que, si je le retrouve avant vous, c'est moi qui m'occuperai de lui.
Et donc voilà, ça ne tient qu'à ça, c'est juste une histoire de vengeance, et donc c'est un film prétexte, c'est un film assez court, je vais vous expliquer aussi pourquoi, c'est un film assez court, mais c'est un film prétexte uniquement à une histoire de vengeance et à des scènes de baston et d'action, qui sont plutôt bien mis en image par John Flynn, c'est en ça que je dis que c'est le moins pire, parce que après le scénario et tout ce qui est plus convenu, Steven Seagal est absolument ridicule dedans, parce qu'il joue, alors il faut le voir en VO, parce que c'est exceptionnel, il se donne un accent italien, comme dans Nico d'ailleurs, mais là encore pire, d'italo-américain, qui a absolument ridicule et c'est risible. Au début du film, il découvre un petit chiot et il se traîne ce chiot tout le long du film. Pourquoi, comment? On ne sait pas pourquoi. Il s'est pris d'affection d'un chien. Il se traîne toujours avec son chien dans sa voiture. Et il affronte le caïd du quartier, donc son ancien ami. Il est joué par William Forsythe. Et William Forsythe, donc c'est un acteur américain qui joue souvent des seconds rôles, toujours un peu taré. Et dedans, lui, par contre, est très très bon et qui fait un excellent méchant. Donc c'est aussi pour ça que le film mérite d'être vu.
Hey, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Hein? Eh ben t'as plus qu'à m'arrêter maintenant, hein? Allez, vas-y, arrête-moi! Vas-y, j'ai plus de munitions! Ça c'est très con pour toi. Parce qu'avec des balles, t'aurais moins souffert.
Alors pourquoi le film est What the Fuck? Aussi, parce qu'il a été beaucoup remonté. Pourquoi il a été remonté? Parce que justement, donc normalement à la base il était 30 minutes plus long le film. Et en fait c'est Steven Seagal qui a demandé à ce qu'on coupe 30 minutes de film parce qu'il estimait qu'on voyait beaucoup trop William Forsythe et que à force, donc le méchant lui faisait de l'ombre. Et comme à l'époque Steven Seagal était extrêmement bankable, et donc il avait un peu les pleins pouvoirs, et donc il a dit à la Warner, vous coupez 30 minutes, vous m'enlevez un maximum de William Forsythe, il faut qu'on me voit plus à l'écran. Et donc c'est pour ça que le film est plus court, mais ça fait un film totalement bancal, parce que c'était des scènes qui expliquaient aussi la relation entre les deux hommes, et aussi pourquoi William Forsythe était aussi taré. Et tout ça a été coupé au montage, et encore une fois, moi je le trouve encore aujourd'hui correct, dans la mesure d'un film de vidéoclub des années 90. Après, c'est pas un film de grande qualité qu'on va se regarder de manière régulière, mais en tout cas, c'est peut-être le moins pire des Seagal à mon sens. Et même si à l'époque j'aimais beaucoup, bon, bien sûr j'en suis revenu de Seagal comme beaucoup j'imagine, et surtout après toutes les bouses qu'il enchaînait jusqu'à il y a quelques années avant qu'il arrête, et heureusement qu'il a arrêté d'ailleurs, mais en tout cas celui-ci il est encore regardable, mais après il faut le voir aussi en VO pour se taper une bonne barre de rire, parce que dès qu'il ouvre la bouche c'est quand même assez hilarant quoi. Et donc voilà, c'était sorti chez Warner, il n'existe pas de DVD français sur ce film, on peut le trouver en DVD zone 1 je crois qu'il n'existe pas en Blu-ray. Je suis pas sûr qu'on le trouve je suis même quasiment sûr qu'on le trouve pas sur les plateformes, peut-être en VOD, je sais pas, j'ai pas regardé, je vous avoue. Mais voilà, si à l'occasion, pour se taper une bonne soirée en mode vidéoclub, celui-ci il a tout à fait sa place.
Thibaut, vas-y, fais-nous plaisir.
Non, vraiment, c'était pas ma cam du tout. J'avais des collègues à qui ça plaisait bien, donc on m'a un petit peu forcé à voir ce genre de truc. Voilà, celui-là, je sais même pas si je l'ai vu en fait. Je suis sûrement passé à côté d'un grand film. peut-être que ça vaudrait le coup que je le revoie. Que je le vois, pardon, tout court.
C'est un vrai regret parce que comme il n'est pas sorti en salle, on n'a pas pu te traîner, te forcer à aller le voir comme on l'avait pu le faire, notamment sur Piège en haute mer.
Et on est sorti de là et vous aimiez pas non plus.
Ah ouais, non, on l'a trouvé que c'était naze. Bah ouais, parce que ça ressemblait tellement à un Die Hard raté.
J'avoue, je crois que j'avais dit, mais moi j'aime bien, mais voilà.
Je suis même pas sûr. Hein.
Je sais plus, honnêtement, je sais plus.
Tommy Lee Jones m'avait déçu. Enfin bon, bref. Donc non, Justice Sauvage, non, je sais pas. Non, j'ai rien de malheureusement pas grand chose à dire sur les sur ça. C'était j'en ai vu un ou deux, mais me rappelle pas si je l'ai vu pas.
Moi, en fait, ce genre de film, il y a un petit côté régressif que je trouve assez jouissif en fait, parce que des fois, voir des gens casser du mafieux, etc., il y a des moments, c'est super rigolo, alors surtout quand t'es ado, etc., je pense à des films comme Vigilante ou des choses comme ça, il y a un peu de cet ordre-là, ou même Un justicier dans la ville, etc. Moi, je me souviens surtout de... À chaque fois qu'on me parle de Justice Sauvage, je pense à une scène où il entre dans un bar, il prend des boules de billard, il les met dans un tissu, et puis il éclate la tronche des mecs en faisant une fronde, en fait, avec des boules de billard. Et je trouve que, en fait, l'idée est vachement... qui a été reprise après, mais je trouve que l'idée est forte, parce que du coup, ça fait plus mal qu'un coup de feu, finalement, ce genre de truc.
Cette scène est exceptionnelle.
Ouais.
Personne n'a vu Richie. Et personne sait pourquoi il a tué Bobby Lupo. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux t'occuper de moi? C'est marrant, ça fait un moment que ça me démange, moi aussi.
J'ai fait une petite cravate.
Je crois que je vais commencer par te couper la tête. Fils de pute, tu m'as pété les dents!
J'avoue, j'ai pas revu ça depuis au moins 25 ans, etc. Et je l'ai, je crois, jamais vu en VO. Et ça me manque pas plus que ça, etc. Mais j'avoue que si je tombais dessus, par curiosité, peut-être que je le rematerais juste pour me rappeler 2-3 trucs marrants. Mais voilà, quoi. En tout cas, c'est chouette de le citer.
Ça fait partie quand même de oui, je suis d'accord.
De
hein, c'est
culture.
Vrai que j'ai pas accroché là-dessus, mais j'ai accroché sur d'autres trucs. Hein, donc, je me moque pas plus que ça. Hein.
Les films de Steven Seagal, à la fin, pas à la fin, en tout cas, dans une période encore où la VHS et le Vidéoclub étaient prisés, c'était des films qui étaient extrêmement recherchés pour un samedi soir. Hein, c'était des hits de Vidéoclub. Je voulais en parler au moins d'un. Pour moi, ça symbolise vraiment cette période-là aussi du Vidéoclub.
Les Bronson, les Chuck Norris, Chuck Norris, c'est pas toujours polar, etc., mais Bronson, certains Stallone, c'est...
On aurait pu parler des films de la canon. Après, j'en ai beaucoup parlé dans les 3 épisodes consacrés au studio, mais les films de la canon, c'est les vrais films de Vidéoclub aussi. C'était les Bronson, les Chuck Norris. Enfin, c'est comme Seagal, on est beaucoup de garçons, enfin, c'est plutôt les garçons, faut le dire, ou les hommes qui allaient au Vidéoclub chercher ces films-là. Et ces films-là étaient difficilement, d'ailleurs, le samedi soir, étaient difficilement trouvables. Ils étaient tout le temps pris.
Soit réservés, soit pris.
Exactement.
Ouais. Ça fait partie de cette culture-là, du samedi soir, un bon polar, des gunfights, on pose le cerveau, certains films, même de Clint Eastwood, etc. C'est exactement ça. Après, Clint Eastwood, c'est quand même au-dessus, mais c'est clairement ça. Par rapport au chien, tu disais, il a tout le temps un chien, etc. Je me souviens m'être dit à l'époque qu'ils lui ont donné un chien pour qu'il ait l'air sympa, parce que sinon il est complètement détestable en fait le personnage, et au moins ça l'humanise un peu. Et quand j'ai vu la première fois John Wick, quand ça commence en fait il est attaché à son chien etc, je me suis dit putain ils sont en train de refaire Justice Sauvage.
Non
mais après non. Ah bah non, non après ça part en, ah bah non. Non, après ça part en vrille.
Non
mais j'avoue
ils
que
ont
la...
tué mon chien.
La pensée m'a traversé l'esprit quand j'étais au Cinoche en voyant John Wick quoi.
Et voilà, on referme les portes de notre vidéoclub pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur les années bénies de la bande magnétique, avec un retour sur le premier opus de Rambo, le rural doux dur et dingue avec Clint Eastwood, et l'une des meilleures collaborations du duo Terence Hill et Bud Spencer de Superflick. En attendant, tous nos autres épisodes sont toujours disponibles sur notre site retouralecran.fr, sur YouTube et sur les meilleures plateformes de podcast et de streaming musical. A très bientôt.
Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma.
Pour être aimé, il faut être aimable.
Vous voulez un chocolat ?
C'était pas ma guerre.
Back in full force.
Quelle est votre devise ?
Je m'appelle Bond. James Bond.
Vous délirez totalement là.
C'est ça qui permet de voyager à travers le temps.
La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien.
Vous êtes un mélancolique.
Mélancolique, mon cul.